Mastercard World Elite, la carte prestige de Banque Atlantique qui vous donne accès à plus de 1000 salons d'aéroports LoungeKey et à des offres exclusives, vous propose Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Se rencontrer, se parler. Appel sur l'actualité est à Nouakchott. Juan Gomez.
Bonjour à tous. Merci de nous accueillir au Centre culturel de la région de Nouakchott en Mauritanie. Merci au public venu assister et participer à cette émission. Ce matin, nous allons ensemble dresser un état des lieux de la situation en Mauritanie. Près de 3 ans après la première passation de pouvoir pacifique du pays entre un président sortant et son successeur, quel bilan peut-on dresser des actes posés par le président Mohamed Ould El Razouani ? À mi-parcours de son mandat, nous parlerons du climat politique, de la lutte contre le terrorisme, du développement, des perspectives d'avenir pour la jeunesse, mais aussi du pouvoir d'achat, ou encore de la lutte contre la corruption. Voilà quelques-unes des thématiques que le public souhaite évoquer avec nos invités que je vous présente. Mohamed Yahya Horma, bonjour. Merci bonjour. D'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le vice-président de l'Union pour la République, l'UPR, le parti au pouvoir. À vos côtés, Khalilou Ouldédé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député, vice-président de l'Union des forces du progrès, c'est l'un des partis historiques de l'opposition mauritanienne. Exactement. Avant de donner la parole au public, j'aimerais qu'on évoque cette élection présidentielle de 2019. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent un peu partout à travers le monde qu'entre 1978 et 2008, le pays a été secoué par de nombreux coups d'État. Et puis en 2019, pour la première fois depuis l'indépendance du pays, un président sortant a passé le pouvoir à un successeur élu. Mohamed Yahya Horma, est-ce que c'est le signe d'une maturité politique en Mauritanie ?
Oui, je le pense bien. C'est un événement majeur, historique et une étape importante dans le parcours politique de la Mauritanie. Donc, je considère que nous devons mémoriser cela, nous devons le capitaliser et que, à jamais, nous soyons sur cette tendance de changement, d'alternance pacifique au pouvoir par la voie des urnes.
Khalilou Ouldédé, 2019, année historique pour la Mauritanie.
Bon, c'est un moment important qui nous a permis d'éviter un coup d'État constitutionnel. On a évité un troisième mandat et ça correspond à une trêve dans le système qui n'a pas encore changé, un système encore verrouillé par ceux qui sont au pouvoir et nous attendons encore un système où tous les acteurs s'entendent et acceptent les règles du jeu.
Vous dites que c'est en quelque sorte le changement dans la continuité. Justement, on parlait politique à l'instant, on va commencer avec un premier intervenant, Abdoulaye Boy, bonjour. Vous souhaitiez nous interpeller justement sur le climat politique depuis 3 ans.
Oui, Juan, merci beaucoup d'abord. Donc moi je suis ingénieur, donc je m'intéresse beaucoup à l'aspect industrie, projet industriel, etc. Une condition sine qua non pour l'attrait des investissements dans le domaine industriel, c'est un climat d'apaisement politique et social. Et on a constaté depuis 2-3 ans une gouvernance basée sur le dialogue et la concertation. On a constaté aussi un début d'un débat constructif et calme, surtout oui. Calme.
Ça change des 10 ans de présidence Aziz ?
Tout à fait. Je pense qu'il est clair que depuis 2-3 ans, il y a un débat. Il y a un accord sur une Mauritanie plus développée dans 10 ans. Les moyens et les politiques, effectivement, il y a une différence entre l'opposition et le pouvoir. Comment accéder à cet objectif-là ? Mais c'est tout à fait normal si ça rentre dans le cadre d'un débat calme et constructif.
Et donc vous dites que ce débat calme et constructif, c'est bon finalement pour les affaires, pour les investisseurs ?
Exactement, parce que la Mauritanie, là, est en passe de devenir dans les prochaines années un pôle pour l'énergie propre. Donc il y a des memorandums of understanding qui ont été signés pour des dizaines de milliards de dollars dans l'hydrogène vert et espérons dans l'hydrogène bleu aussi, oui, dans le futur. Et ça ouvre aussi un effet domino pour les autres industries, l'acier vert pour l'ASNIM, espérons. Et
donc
avec une énergie...
Le climat s'est considérablement apaisé,
oui, tout à fait.
Dites-vous. Khalilou Ouldédé, vous qui êtes le représentant de l'opposition ce matin sur le plateau de RFI, est-ce que vous partagez cette analyse ? Est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, qu'il y a eu une ouverture politique depuis 2 ans et que vous vivez finalement dans un certain climat d'apaisement ?
Il est clair que si on part de la situation du pays en 2019, il y a un parcours qui a des points positifs. Parce qu'en 2019, le pays était un champ de confrontation et de ruines. Et depuis 2 ans et demi, il y a un parcours où il y a des signes positifs.
Et ces signes positifs, on m'a dit que l'opposition était régulièrement reçue au palais présidentiel. Vous confirmez ?
Non, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'apaisement, une accalmie qui se concrétise par une volonté du pouvoir en place, contrairement à ce qui existait avant, de se concerter, de discuter et d'échanger sur les problèmes sérieux qui menacent la stabilité et l'avenir du pays. Ça a donné des résultats. Par exemple, le pouvoir et son parti, qui sont représentés au niveau du Parlement, ont accepté de faire des choses ensemble avec les partis d'opposition. J'ai fait allusion à la fameuse commission d'enquête parlementaire, j'ai fait allusion au travail contre la Covid-19, je fais allusion à la préparation du dialogue actuel. Donc, il y a des accointances positives, mais le problème, c'est que les questions de fond restent posées.
Les questions de fond, on va les aborder évidemment tout au long de cette émission spéciale que nous enregistrons ici à Nouakchott en Mauritanie. Mohamed Yahya Horma, justement sur le climat politique, évidemment, vous ne pouvez pas dire le contraire, la situation s'est considérablement apaisée.
Légèrement différent, mais globalement d'accord. Khalilou aurait dû quand même reconnaître qu'ils sont régulièrement reçus, comme vous l'avez dit, à la présidente de la République.
Vous le reconnaissez, Khalilou?
Petite omission.
Le problème n'est pas d'être reçu.
Oui.
Le problème, c'est de régler les problèmes qui se posent.
Effectivement. Alors, on laisse répondre Monsieur Horma. Monsieur Horma.
Bien. Je trouve que effectivement, il y a un climat d'apaisement reconnu par tous et que le président Mohamed El-Ghazouani l'avait annoncé déjà dans son programme de candidature à la présidence. C'était l'apaisement du climat politique et la préparation de rencontres entre les partis représentés au Parlement, notamment. Ce que nous avons fait dès le début de ce mandat, avec, entre autres, nos amis de l'UFP. Et effectivement, le climat d'apaisement est un prérequis pour, d'une part, le développement économique, comme l'a dit l'ingénieur Abdullah, mais aussi pour s'entendre sur des questions politiques majeures. Il est indéniable que le président Ghazouani a ouvert pour la première fois, je dirais, des perspectives de concertation, des perspectives d'échange et d'apaisement.
Mais encore faut-il, ce n'est pas tout de recevoir, comme le disait Khalilou Oulédé. Mais encore faut-il effectivement que les revendications de l'opposition soient aussi prises en compte.
Les revendications de l'opposition, pour certaines, sont les nôtres. Des propositions de bien-être social, des propositions pour le progrès de la Mauritanie. Ça, ce sont nos propositions. Donc, là-dessus, il n'y a pas de désaccord. Donc, oui, il y a un réel climat politique. Oui, c'est pour la première fois dans le pays que cela dure depuis 3 années. Et, effectivement, on n'a jamais vu de troubles à l'ordre et la quiétude est totale. Donc, c'est effectivement un climat non vécu par les Mauritaniens jusqu'à présent.
On redonne le micro RFI au public. Mokhtar Fall, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous nous interpellez, vous, sur la bonne gouvernance, sur la lutte contre la corruption. Je rappelle que c'était l'une des priorités du président Mohamed Ould El-Razouani il y a quasiment 3 ans, au moment de son élection.
C'est tout à fait, monsieur Juan. Je vais rebondir sur la bonne gouvernance. Et quand on parle de la bonne gouvernance, passe obligatoirement par la justice. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut un état de droit, il est tout à fait normal de pouvoir régler les problèmes de droit. Il y a 2 dossiers extrêmement importants.
Lesquels?
Il s'agit du dossier d'Abdelaziz,
l'ancien
président, qui est un dossier extrêmement important.
Je précise qu'il est poursuivi, entre autres, pour corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite durant les 10 années qu'il a dirigé le pays.
C'est tout à fait juste, jusqu'à preuve du contraire. Mais il est tout à fait normal également de donner à l'ancien président une justice équitable. Il y a le dossier très important également et qui fait pleurer plus de 2000 propriétaires fonciers, qui est le dossier de Cheikh Rida.
Qui porte sur quoi exactement ce
dossier ? Qui porte sur une escroquerie foncière, des veuves, des orphelins qui ont été escroqué.
Mais est-ce que vous avez l'impression, en tant que citoyen, et on fait réagir évidemment dans la foulée nos invités, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une réelle volonté aujourd'hui de faire la lumière sur notamment ces 2 dossiers?
Mais j'ai dit non.
Non.
J'ai dit non, parce que jusqu'aux preuves du contraire, pour le dossier de l'ancien chef d'État, malgré qu'il y a eu des enquêtes, il y a eu tout, mais il est tout à fait normal que le peuple mauritanien sache la réalité et pourquoi ce dernier...
Ce dernier, en tout cas, lui, dénonce une cabale politique. Mohamed Yahya Horma, sur ce dossier Aziz, qui est très commenté, les Mauritaniens en parlent, le dossier de l'ancien président.
Très bien. D'une part, je vais réagir à la notion d'état de droit qu'il a évoquée. Je pense que la Mauritanie est un état de droit. C'est justement d'autant plus un état de droit que le gouvernement n'intervient pas dans les procédures judiciaires. Ce sont des choses qui sont devant la justice. D'une part, j'estime que les procès d'anciens chefs d'État, que ce soit en Mauritanie ou en France, sont des procès au long cours. On parle de décennies, on parle parfois de 20 ans. Je suis des informations françaises en particulier.
Oui.
Un ancien président et un ancien premier ministre ont été jugés sur des périodes excessivement longues. Pourquoi ? Parce que la justice est assez méticuleuse quand il s'agit des personnalités de cette envergure. Et elle termine toutes les enquêtes et les diligences qui sont nécessaires. Par ailleurs, il ne me semble pas que la période écoulée soit excessivement longue. Ceci étant dit, je suis partisan que les affaires pendant devant la justice, dans la mesure où elle les permet, où elle dispose de l'ensemble des informations et des enquêtes, qu'ils soient traités avec diligence.
Khalilou Ouldédé, justement, sur cette thématique. Quel constat faites-vous ? Quel bilan dressez-vous 3 ans après ?
Sur cette question, bon, d'abord, je rappelle que la commission d'enquête parlementaire, c'était un moment fort dans l'histoire de ce pays parce qu'elle a révélé pour la première fois l'état de la malversation dans ce pays-là. Plus de 300 personnes ont été mises en accusation. Des manes énormes, de l'argent énorme de ce peuple a été détourné. Bon, c'était bien. Et le pouvoir a permis, n'est-ce pas, ce travail-là. Et on a vécu un moment de séparation du pouvoir, c'était bien. Mais ça patine depuis un certain temps. Parce que c'est cet argent énorme qui appartient au peuple, où est-ce qu'il est ? On ne sait pas quelle est sa destination.
Le reste, vous demandez que la justice aille plus rapidement ?
Nous voulons la nationalisation de ces biens publics. Mmh. Et ensuite, ce qui a été découvert par la commission d'enquête parlementaire, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ça a révélé qu'il y a un véritable problème de gouvernance, de gestion des affaires de ce public.
Alors, Monsieur Horma, et on repasse au public. Oui,
je pense que, d'une part, il faut reconnaître que la commission d'enquête parlementaire, qui ne pouvait avoir lieu que si notre parti, le parti au pouvoir, avait donné son accord et avait...
Parce que vous avez une très large majorité à l'Assemblée.
Que c'est un fait unique, important. Vous allez voir dans l'environnement immédiat, vous ne verrez pas d'enquête parlementaire sur les anciens chefs de l'État. Donc, reconnaître que l'UPR et le président Razouani et le gouvernement ont permis avec diligence qu'une commission d'enquête parlementaire se tienne, c'est notre vœu. C'est notre vœu aussi que la justice l'a relayé, mais l'a relayé dans le temps qui est le sien.
Oui.
Parce que le temps de la justice n'est pas le temps des journalistes et des...
Et de l'opinion publique. Et de l'opinion publique, effectivement. Je précise quand même que l'ancien président, lui, estime que cette affaire, c'est un complot politique, c'est un règlement de compte politique. On va continuer cet état des lieux de la situation en Mauritanie, 3 ans après l'élection du président El Razouani. Bonjour Hassan Lebat.
Bonjour Juan.
Alors vous nous interpellez sur la lutte contre le terrorisme.
Concernant la lutte contre le terrorisme, on est les voisins immédiats d'un pays qui a quitté le G5 Sahel et qui a connu une tentative de coup d'État. Et on est un îlot de tranquillité au milieu d'un certain nombre de pays qui connaissent des répercussions quasi quotidiennement. Cet état de fait, il faut le conserver, notamment en gardant la tranquillité dont jouit notre pays, sinon on risque de tomber dans les affres du terrorisme.
Et donc, en tant que citoyen, vous vous dites au regard de ce qui se passe en ce moment précis au Mali, vous vous inquiétez pour l'avenir sécuritaire de votre pays ? Vous craignez que cela puisse avoir des répercussions ici même ?
C'est un acquis. Depuis 2011, ce pays n'a pas connu la moindre explosion terroriste. Ça fait quand même 11 ans que ce pays est tranquille. Et si vous regardez, ça fait 11 ans que ce pays est tranquille, c'est peut-être parce que c'est le monsieur qui dirige aujourd'hui le pays pendant 10 ans, il était à la tête de l'armée, ensuite ministre de la Défense, ensuite président de la République. Ça, c'est un acquis qu'il faut conserver.
Parce que son prédécesseur avait, lui, lancé la lutte contre le terrorisme,
certes,
président Aziz.
Certes, mais les deux, ils étaient aux manettes en ce qui concerne le terrorisme, la lutte contre le terrorisme.
Alors, justement, Khalilou Ouldédé, la lutte contre le terrorisme, elle va dans le bon sens, selon vous ?
Bon, je pense que ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une tranquillité par rapport à ce terrorisme dans le pays. On ne peut que se féliciter de cet acquis pour le peuple mauritanien, dont les explications sont nombreuses. N'oubliez pas que notre peuple adhère dans sa totalité à un islam tolérant. Ça, c'est extrêmement important. Il ne connaît pas la violence. Ensuite, peut-être que les prestations militaires ont marché en coopération avec d'autres partenaires. Ensuite, il y a aussi le fait que la classe politique mauritanienne dans son ensemble travaille pour un front uni intérieur pour faire face à cette histoire de terrorisme. Oui. Mais attention, nous et le Mali, nous sommes un seul corps. Il y a des interpénétrations énormes.
2300 kilomètres de frontières communes.
Absolument, absolument. Donc, tant que les choses ne sont pas tranquilles au Mali et dans notre sous-région, nous devons toujours être vigilants et ne pas, n'est-ce pas, se glorifier ou faire un triomphalisme.
Hier, on a longuement parlé dans l'émission de cette stratégie menée par la Mauritanie depuis le milieu des années 2000 pour lutter contre le terrorisme. Et on a bien vu que cette stratégie, elle était transversale. Il y a évidemment l'option militaire sécuritaire qui a été privilégiée, mais la réponse, elle a également été économique, politique, administrative, religieuse. Mohamed Yahya Horma, vous comprenez l'inquiétude de cet auditeur Hassan Lebat sur est-ce que la Mauritanie sera encore capable de garantir la sécurité au regard de ce qui se passe au Mali voisin.
Oui, la classe politique mauritanienne est d'accord sur le fait que la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme a été efficiente. Naturellement, il y a les terreaux favorables au terrorisme dans les pays africains, dans certains pays africains que je ne citerai pas, est un terreau sur fond de crise ethnique, de crise entre les pasteurs et les cultivateurs, de vieux problèmes nationalitaires ou ethniques non réglés depuis le début du siècle et d'interprétation de l'islam. Parce qu'au Mali, si on remonte assez loin à l'époque d'Hamdallah, d'Ahmed Ben Ahmed, d'El-Hajj Omar El-Fouti, il y a déjà eu des divergences de l'interprétation. Et donc, c'est un terreau où l'islam est présent. En Mauritanie, la stratégie nationale, qui est une stratégie multidimensionnelle, comme vous l'avez dit, a donné de bons résultats parce qu'elle a traité l'ensemble des questions associées au terrorisme. Les forces de sécurité et de défense ont été équipées, armées, entraînées et formées pour ce genre de guerre asymétrique, et donc cela a donné de bons résultats.
Oui. Alors, on va continuer rapidement à donner la parole donc à un dernier intervenant avant de marquer une pause. Yahya Mohamed Saleh, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous interpellez, vous, sur la politique sociale.
Oui.
On vous écoute.
Alors, malgré la crise sanitaire sans précédent que le monde a vécu dernièrement, beaucoup de choses ont été réalisées dans le domaine du social, notamment l'élimination de la pauvreté extrême en prenant en charge.
L'élimination, c'est le terme que vous utilisez.
Oui, c'est un projet qui est en cours.
Ah, c'est un projet qui est en cours.
Oui, mais qui a commencé.
Oui, peut-être, mais on ne peut pas parler d'élimination de la pauvreté à l'heure actuelle en Mauritanie.
C'est l'objectif à atteindre. C'est un objectif.
D'accord.
Donc, c'est un objectif d'éliminer la pauvreté extrême en Mauritanie, qui est à peu près à 15%. Donc, ce qui a été fait, c'est d'abord de créer un registre social qui compte toutes les familles ou toutes les ménages pauvres en Mauritanie, qui compte actuellement plus de 200 ménages, 200 000 ménages.
Oui.
Et après, il y a 100 000 ménages qui ont eu des allocations familiales par trimestre. Mmh. Et donc, il y a aussi l'assurance maladie. Donc, ils ont bénéficié d'une assurance maladie. Donc, ça fait plus de 100 000 familles qui est plus de 600
000 personnes. C'est vrai qu'il y a eu la gratuité.
C'est 15% de la population, quand même.
Oui, il y a eu la gratuité des soins mise en place pour, effectivement, les familles les plus vulnérables. C'était une promesse électorale. Pour ceux qui nous écoutent, les consultations médicales, les traitements, les hospitalisations sont maintenant prises en charge pour ces familles les plus démunies. Vous savez quoi ? On va marquer une pause, 10 minutes. On va retrouver la rédaction à Paris pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on poursuivra la discussion avec vous, les autres intervenants et nos invités. Restez à l'écoute des RFI.